Bonjour à tous, bonjour Anne-Cécile.
Bonjour Arnaud.
Alors aujourd'hui, nous mettrons le cap sur l'océan Indien pour aller voir ce qui se passe à Madagascar.
Et oui, nous partirons sur cette grande terre qui est de plus en plus convoitée par des compagnies étrangères.
Dans le dossier d'Aïmou, qui m'a choquée, c'est d'abord l'ampleur des surfaces concernées, l'histoire des OGM. Donner tant d'hectares aux Sud-Coréens priverait les Malgaches de terres de culture. Certes, certaines surfaces n'étaient pas encore cultivées, n'étaient pas exploitées, mais pour moi, le rôle d'un gouvernement aurait plutôt été d'aider les paysans malgaches à entretenir, exploiter pour une production pour la population locale.
Actuellement, la mondialisation pousse de plus en plus d'entreprises à partir en quête de terres disponibles dans les pays du Sud, soit pour y exploiter des ressources disponibles, soit tout simplement pour y disposer d'espaces suffisants pour y développer de grands programmes agricoles. Madagascar, qui est en quête de ressources économiques, est ouvert à de nombreuses propositions qui inquiètent une partie de la population. La braderie des terres à Madagascar, un reportage de Lydia Benitzak, à découvrir tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
Imaginez tout simplement que le pain du Christ était fait avec de l'OGM. Croyez-vous qu'il aurait dit que ce qui en mange aura la vie éternelle?
Et tout de suite, c'est le jeu de cette première partie. On décortique l'actualité environnementale avec vous, Arnaud Apothécaire. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en charge de la campagne OGM à Greenpeace France. Alors, je ne vais pas vous demander si le pain du Christ avait été fait avec des OGM, s'il donnerait la vie éternelle, même si vous avez peut-être un avis sur la question.
Non, pas à ce niveau historique.
Alors, en tout cas, pourquoi les OGM sont-ils un sujet aussi sensible? C'est vrai que l'enjeu dépasse la simple question technologique, hein.
Oui, je crois qu'avec les OGM, on se rend compte à la fois qu'on est en train véritablement de manipuler le vivant, hein, c'est-à-dire ce qui fait en fait ce qui est la substance même de ce qui nous constitue aussi, même si aujourd'hui les OGM sont sur les plantes. Ça, c'est un des aspects qui, de mon point de vue, fait qu'on ne peut pas ne pas avoir une réaction extrêmement forte sur ces technologies, et encore plus lorsque l'on sait qu'elles sont totalement aléatoires et qu'on est en train de transformer nos écosystèmes de façon totalement imprévisible.
Alors, pour commencer ce tour de l'actualité environnementale, Arnaud, il y a ce nouvel objectif japonais de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qui est salué, évidemment, par les Nations Unies.
Alors oui, Ivo de Bourg, le secrétaire général de la Convention climat des Nations Unies, qui mène les négociations internationales, qui doivent se concrétiser en décembre à Copenhague, a salué l'objectif de 25% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, annoncé ce matin par le nouveau Premier ministre japonais pour la période 1990-2020, ce qui représenterait une hausse de 8% sur les objectifs annoncés par le précédent Premier ministre. Pour Ivo de Bourg, cet engagement est en phase avec ce que disent les scientifiques, et cela va amener les Japonais à endosser eux aussi cette nouvelle carte des pays industrialisés qui doivent jouer un rôle moteur à Copenhague. Alors, pour Ivo de Bourg, la négociation climat souffre évidemment principalement actuellement d'une profonde défiance entre pays en développement et pays développés. Arnaud Apothécaire, vous suivez, comme tout le monde, ces négociations climat. Comment vous voyez cette grande réunion?
Moi, je dirais que en tant qu'écologiste, hein, et non pas du tout en tant que spécialiste du climat, cette grande négociation de Copenhague, hein, qui devrait en réalité ouvrir vers une ère nouvelle sur notre façon de consommer de l'énergie, d'émettre nos gaz à effet de serre, nous craignons qu'elle ne débouche sur pas grand-chose finalement. On en arrive à des choses extrêmement technocratiques et assez peu d'ambition politique forte. Alors de ce point de vue-là, moi je dirais ce qu'a annoncé le Japon, c'est le verre à moitié vide et à moitié plein, hein. Évidemment, le Japon fait un effort par rapport à ce qui était fait jusqu'à présent. Et si on reprend les termes d'Ivo de Bourg, oui, il est dans la fourchette scientifique. Mais la fourchette scientifique, hein, c'était une demande de réduction de 25 à 40% des gaz à effet de serre. Donc on est vraiment au minimum de ce qu'indiquaient les scientifiques. Et on s'aperçoit qu'à chaque nouvelle réunion scientifique, ceux-ci sont plus inquiets qu'ils ne l'étaient précédemment. Donc on est malgré tout loin de ce qu'il serait vraiment nécessaire pour nous, je dirais, nous rassurer sur la volonté des différents gouvernements de prendre ce problème du changement climatique à bras-le-corps.
On risque de se mettre d'accord sur finalement le dénominateur le plus bas. C'est le plus inquiétant.
C'est ça qui, malheureusement assez souvent le cas de ces grandes messes internationales, parce que chacun essaye de préserver des intérêts immédiats au détriment de la sauvegarde de la planète à plus long terme. Bon, il faut espérer malgré tout que cet effort supplémentaire des Japonais oblige en quelque sorte les récalcitrants à aller un peu plus loin.
Oui, parce qu'en attendant, les conséquences du réchauffement climatique, se poursuivent. Et d'ailleurs, il y a un cabinet d'études britannique, Maplecroft, qui a fait une étude pour savoir quels sont les pays les plus vulnérables face au réchauffement climatique. Eh bien, le résultat de leur étude, c'est que la Somalie, Haïti, l'Afghanistan et la Sierra Leone sont les pays les plus vulnérables et que sur les 28 pays exposés à un risque extrême, 22 sont situés en Afrique subsaharienne. À l'autre extrémité du classement, donc les pays les moins exposés, il y a la Norvège, la Finlande, le Japon et le Canada. C'est un classement qui semble quand même injuste, Arnaud Apothécaire.
Oui, tout à fait. C'est le côté le plus grave. C'est peut-être pas le plus grave, mais le plus injuste, en tout cas, de ces problèmes de dérèglement climatique. C'est que les pays qui vont en souffrir le plus, qui seront le plus les victimes de ces dérèglements, sont les pays les plus pauvres et ceux qui ont le moins contribué à ces augmentations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui sont responsables de ces dérèglements climatiques. On a là une double injustice et on a dans le réchauffement climatique, comme sur une bonne partie de l'appropriation de ressources et de minerais, on a cette injustice, cette dette écologique des pays du Nord qu'il faut vraiment maintenant se décider à payer. C'est-à-dire c'est aux pays du Nord de faire les efforts les plus importants et le plus rapidement pour diminuer les impacts du changement climatique.
Alors il y a quand même des bonnes nouvelles. Alors selon les derniers chiffres diffusés par l'Institut brésilien des études spéciales, la déforestation en Amazonie a baissé de 46% en un an entre août 2008 et juillet 2009. Ce sont 4375 km² de forêts qui ont été déboisées, ce qui est beaucoup moins que ce qui a été fait. On dit que d'après le gouvernement brésilien, c'est le chiffre le plus bas depuis 20 ans.
Mais c'est encore beaucoup trop.
C'est étonnant quand même, vu l'extraordinaire développement du marché intérieur brésilien, qui est en passe de devenir l'une des premières puissances agricoles du monde.
Oui, c'est, là aussi, on ne voudrait pas faire toujours l'oiseau de mauvais augure, et effectivement, une baisse de la déforestation devrait être vue comme quelque chose de positif. Mais enfin, c'est malgré tout 4000 km² de forêt qui ont encore disparu cette année. On a malgré tout aussi vu, dès le mois de juillet dernier, une augmentation de nouveau de ce déboisement de la forêt amazonienne, et comme vous le soulignez, le fait du développement agricole fait peser un risque considérable. Alors tant mieux, réjouissons-nous de ce qui s'est passé dans l'année 2008-2009, mais ne prenons pas pour acquis que grâce à ces bons résultats, l'Amazonie est protégée. Il y a aussi des tas d'autres facteurs qui font que certaines années, il y a plus de déforestation que d'autres, et en particulier, par exemple, le prix des matières premières comme le soja, qui, s'il est élevé, pousse les agriculteurs à s'étendre encore plus dans la forêt. Je crois que on peut dire que ces bonnes nouvelles montrent qu'il y a quelque chose à faire. Mais ce quelque chose à faire nécessite une surveillance des règles beaucoup plus strictes dans ce Far West qu'est l'Amazonie.
dala suma muru le sigra mandinga lu dala folo 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 o kera tu ma mina molu badabali simone vila ka suma muru kante ke ka bo mane mu holu dala kera ka bo we badabali simbo parada suma de no na wali he ka bo wala ngana masafa ko di ala tanso ko baya ka muta baya ni donga ga masafa linga na ni politikimba puru ni woka ni nyongo ye bula ye makasuku danda
Paloma ye, paloma ye, paloma ye, paloma ye, paloma ye, paloma ye, ta colina sunda tame suma orogena. Paloma ye, paloma ye, paloma ye, paloma ye, paloma ye, paloma ye, ta colina sunda tame suma orogena.
Chicken Jaffa Coli dans C'est pas divin sur RFI et c'est maintenant le moment de nous intéresser à l'actualité environnementale et aujourd'hui zoom sur le continent africain.
Et l'Afrique, c'est avec vous, Zéphirin Kouadio. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, on commence par une initiative étonnante en Ouganda, une initiative de l'organisme national chargé de la protection de la faune.
Oui, oui, l'idée consiste à proposer aux usagers des sites de socialisation tels que Facebook et Twitter de pouvoir compter désormais parmi leurs amis des gorilles des montagnes. Grâce au système de géolocalisation et au GPS, les internautes pourront recevoir régulièrement des nouvelles de leurs amis en temps réel. Cette initiative est destinée à récolter les fonds pour mieux assurer la protection de ces animaux, nous dit-on, en voie d'extinction. Pardon. Pour savoir comment est née cette idée, Sonia Rollet a pu joindre Liliane Nsubuga, la porte-parole de l'autorité ougandaise pour la faune. Je vous propose de l'écouter.
C'est une idée qu'ont eu nos collègues qui utilisent Facebook. Ils ont découvert l'impact de ce réseau social et le nombre de personnes que l'on peut toucher à travers lui pour sensibiliser les gens sur la vie des gorilles ou même lever des fonds. Vous savez, Barack Obama a réussi à récolter beaucoup d'argent pour sa campagne par Facebook en demandant aux utilisateurs de donner $1 et nous comptons faire de même pour les gorilles. Partout dans le monde, les utilisateurs de Facebook pourront devenir amis avec des gorilles d'Ouganda. Ils apparaîtront aux côtés de leurs amis humains. Nous mettrons à jour leur page quotidiennement, ils pourront ainsi avoir des nouvelles, savoir précisément où les gorilles se trouvent, ce qu'ils aiment ou pas, ce qui leur est arrivé, s'ils ont été blessés, s'ils ont eu des enfants, s'ils ont reçu de la visite. Bref, ce sera facile d'avoir des informations sur un gorille en particulier.
Voilà, c'était Liliane Subunga, porte-parole de l'autorité ougandaise pour la faune pour cette initiative. J'ajoute que l'organisme prévoit aussi d'installer des caméras dans la forêt de Bwindi qui abrite près de la moitié de la population mondiale de gorilles des montagnes, estimé à 740 individus. Selon de nombreux experts, les gorilles des montagnes pourraient disparaître. Et il faut rappeler enfin que ces animaux qu'on retrouve également en République démocratique du Congo et au Rwanda constituent la principale attraction touristique en Ouganda.
Alors, autre sujet d'inquiétude, toujours dans cette région d'Afrique, la sécheresse qui sévit pour la quatrième année consécutive.
Et oui, et c'est le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, qui tire la sonnette d'alarme. Selon l'organisme, cette longue période de sécheresse pourrait plonger des millions de personnes dans la famine. Le scénario est en passe de se réaliser au Kenya. L'agence onusienne a noté que le pays a connu cet été sa pire sécheresse depuis une décennie. Le PAM prévoit de venir en aide à près de 4 millions de Kenyans touchés par cette sécheresse. La situation est également alarmante en Éthiopie, au nord de l'Ouganda, à Djibouti et en Somalie, où le PAM fournit au total une aide alimentaire à près de 17 millions de personnes. Il faut rappeler qu'il y a déjà 3 ans, une terrible sécheresse en Afrique de l'Est avait menacé de famine près de 11 millions de personnes. Notez que l'agriculture, qui est la principale source de revenus pour la grande majorité des populations locales, est tributaire des chutes de pluie. Et le paradoxe, c'est que dans cette région, la reprise des pluies est souvent synonyme d'inondations.
On l'a vu, ouais.
Qui détruisent voilà, les cultures et génèrent des maladies dues à la mauvaise qualité de l'eau, justement. Pour noircir un peu plus le tableau, l'Organisation météorologique mondiale annonce pour les prochains mois l'arrivée de pluies supérieures à la moyenne avec un nouveau phénomène El Niño.
Zéphirin Kouadio, merci pour ces bonnes nouvelles.
Oui, c'est ironique, Arnaud.
À la semaine prochaine.
C'est pas du vent. @RFI.fr
Arnaud Apothécaire, une réaction à cette revue Afrique ?
Mais Non, pas de réaction. On s'est rejoint ce que nous disions précédemment, ces questions terribles de sécheresse et puis d'inondations qui vont le suivre à cause du phénomène El Niño, qui montre à quel point ces pays sont vulnérables aux dérèglements climatiques et à quel point il est urgent pour les pays développés et pour nous en particulier de faire les efforts nécessaires pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Est-ce que vous avez envie d'avoir un correspondant gorille sur Facebook ?
Oui, je suis pas moi-même utilisateur de Facebook, je reste un petit peu démodé là-dessus, mais je trouve que l'idée est assez séduisante et que, en particulier, si elle peut permettre à des personnes partout sur la planète de se sentir investies d'une mission de protection de ces gorilles, allons-y.
Alors, par ailleurs, plus sérieusement, vous êtes responsable donc de la campagne OGM, organisme génétiquement modifié, à Greenpeace France. Alors, comment se présente cette rentrée sur le front des OGM?
Bien, on a eu un été, plutôt calme, où on avait l'impression que la Commission européenne, les instances qui se chargent des autorisations d'OGM avaient peut-être pris en compte l'opinion extrêmement négative à la fois des citoyens du monde et d'un nombre croissant de gouvernements de l'Union européenne. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui inquiets parce que, bon, peut-être que c'est la rentrée pour beaucoup d'entre nous, et ça va être la rentrée pour la Commission européenne avec un nouveau président qui va être durablement installé, et nous craignons qu'effectivement la Commission ne profite un petit peu de ce moment où elle a l'assurance d'avoir un soutien pour essayer de faire autoriser un certain nombre d'OGM, ceux en particulier sur lesquels nous avons obtenu un moratoire, hein, le maïs génétiquement modifié MON-810, pourrait bien être de nouveau autorisé au sein de l'Union européenne et peut-être cultivé en France. Donc il faut rester extrêmement vigilant.
Mais il faut rappeler quand même pour les auditeurs que l'Europe a une position un petit peu particulière sur ce sujet, puisqu'il y a la Commission d'une part et il y a les pays d'autre part qu'on peut nommer, hein, qui eux refusent de cultiver.
Voilà, effectivement, il y a un nombre de pays de plus en plus importants qui ne veulent pas
cultiver
d'OGM sur leur territoire. Il y a 6 pays qui ont pris un moratoire sur le maïs génétiquement modifié MON-810, et il y a un certain nombre d'autres pays qui, sans avoir pris de moratoire, ne le cultivent pas. Aujourd'hui, il n'y a en gros que l'Espagne qui cultive de façon un peu importante du maïs génétiquement modifié, les autres pays n'en cultivant que des quantités absolument ridicules. Et aujourd'hui, un des débats soulevé par l'Autriche et par les Pays-Bas, et qui va être aussi un des débats de cet automne, c'est de savoir dans quelle mesure les pays peuvent interdire la culture sur leur sol d'un OGM autorisé par l'Union européenne. Parce qu'effectivement, l'Union européenne autorise des OGM, certains pays prennent des clauses de sauvegarde, mais il n'y a pas de mesures qui permettent globalement de dire à un pays « cet OGM me paraît dangereux, je n'en veux pas sur mon territoire ».
Pour conclure rapidement, Arnaud Apothécaire, est-ce que sur le plan international, les OGM gagnent du terrain ?
C'est une question toujours extrêmement difficile. Je dirais non. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, les OGM perdent du terrain. Pour la première fois, on voit aux États-Unis, par exemple, un fléchissement de l'augmentation de la culture du soja génétiquement modifié. On s'aperçoit dans certaines régions des États-Unis, le maïs génétiquement modifié a provoqué des résistances chez des mauvaises herbes et les agriculteurs hésitent maintenant à le semer. L'augmentation des OGM s'est stabilisée au Brésil. Les pays d'Asie n'ont pas autorisé de riz OGM alors qu'on s'attendait à cette autorisation de façon imminente. On s'aperçoit de plus en plus, y compris dans les revues scientifiques, qu'il y a des études critiques sur les OGM.
Merci Arnaud Apothécaire pour toutes ces précisions. C'est pas du vent. On revient juste après un bref rappel de l'actualité. Nous partirons sur l'île de Madagascar. A tout de suite.